Voilà, bah écoutez, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici, réunis dans l'hôtel du Seigneur, d'accord ? C'est la maison du Seigneur, on est d'accord ? Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir nous réunir et de pouvoir passer cette matinée ensemble pour adorer et glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alors, samedi dernier, donc le jour avant de notre culte avant d'œuvre, vous vous rappelez si vous étiez. Meg et moi avons reçu un appel de notre fils James, qui, certains d'entre vous le savez, est steward pour Emirates, donc à Dubaï. Et il nous a dit qu'il venait de recevoir son planning et qu'il avait quelques jours de libre, qu'il avait des billets spéciaux familiaux, moins 90%. Ça, c'est intéressant, d'accord ? Encouragez vos enfants à devenir steward ou hôtesse de l'air, d'accord ? Il a dit, si vous voulez venir à Dubaï, c'est maintenant qu'il faut venir. Les réservations sont prêtes pour demain soir, dimanche soir. Alors, Meg et moi, on a dit, on y va. Donc, on est parti. Donc, juste après le culte, on est allé à l'aéroport. On est parti à Dubaï. Et on a passé lundi, mardi, mercredi, jeudi à Dubaï. Franchement, c'était le top du top. Voilà, c'était vraiment super. On a pu voir James dans son nouveau contexte. On a pu voir aussi, on a rencontré beaucoup de ses amis chrétiens. Il est dans une église là-bas. Il a une étude biblique spéciale pour les gens qui travaillent pour Emirates. Vraiment, on était vraiment étonnés, vraiment super contents de ce qu'on a pu expérimenter ces quelques jours. Alors vous dites, mais John, pourquoi tu nous racontes ça ? Alors je vous raconte ça pour la simple raison du fait que de ce voyage très dernière minute, je n'ai pas eu le temps de préparer la suite de Genèse. Voilà pourquoi je vous dis ça, d'accord ? J'ai pas eu le temps de préparer. On est en plein, pour ceux qui sont venus peut-être pour le déluge et l'arche de Noé, on est plein dans l'histoire, là, d'accord ? Et j'avais l'intention de faire le chapitre 8 et 9. Ben, c'est raté, d'accord ? J'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je vous demande pardon pour ça. Alors voilà, donc on va pas faire ça. Mais on va quand même faire autre chose. Ah oui, ben, ça c'est sûr. Alors, puisque c'est un culte de Sainte-Seine, comme vous avez vu, je me suis dit, ben, c'est peut-être l'occasion de revenir au Nouveau Testament pour un culte et nous permettre de nous focaliser sur le pourquoi de la Sainte-Seine et pourquoi elle est importante et sur Jésus-Christ, mettre notre lumière sur Jésus-Christ pour comprendre vraiment l'aspect du pardon de Jésus-Christ. Et donc, j'ai pensé à un texte en particulier qui m'est venu à l'esprit, un de mes textes préférés dans le Nouveau Testament. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est Marc chapitre 2. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Marc chapitre 2. C'est vrai que chaque fois qu'on prend la Sainte-Seine, une fois par mois dans notre Église, on parle du pardon, le pardon de nos péchés par Jésus-Christ. Et donc, ce texte peut être, pas mieux que d'autres, mais d'une manière très forte et puissante, souligne le ministère de pardon de Jésus-Christ et on va le comprendre. Donc juste, peut-être je vais lire les versets pour commencer. Donc on est dans Marc chapitre 2 et à partir du verset 1. Je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors juste quelques mots sur le contexte. Vous rappelez peut-être que Jésus a fait de Capernaüm quelque part le siège social de son ministère. Il y était pour environ 3 ans. Il était là pour prêcher la bonne nouvelle dans les villages des alentours, et bien sûr aussi à Capernaüm. Dans le chapitre 1, verset 39, il prêche dans la synagogue, après il guérit un lépreux. Jésus nous dit dans le chapitre 2 et le verset 1 qu'il revient à Capernaüm. Regardez, quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. Et donc il est de retour dans sa ville, si vous voulez, sa ville de base. Et là, quelque chose d'étonnant se passe. C'est le récit de ce matin. Il va guérir un paralytique. Alors, vous savez que j'aime bien diviser mes textes de manière simple et j'espère claire ce matin. Et donc, ils vont apparaître, bien sûr, sur le PowerPoint. Alors, numéro 1, commençons tout simplement avec la prédication de la parole. La prédication de la parole. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm, on apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir, il leur annonçait la parole. Donc, Jésus revient à Capernaüm, il est à la maison, sans doute la maison de Pierre et André. Et si vous allez à Capernaüm, ou si vous venez en Israël en octobre, nous serons dans Capernaüm, et on peut voir la maison de Pierre et André. Et c'est vraiment super à voir. Donc, c'est là où il avait déjà guéri la belle-mère de Pierre. Et on apprend, puisque Jésus est là, qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Donc, une foule énorme se rassemble devant la maison. Pourquoi tant de monde? Eh bien, parce que Jésus guérissait les gens. Jésus guérissait les gens. Il avait guéri un démoniaque dans la synagogue, la belle-mère de Pierre déjà, toute la ville déjà dans Luc 4, 40, ou le verset 34 ici. Des gens sont de retour car ils veulent voir plus de miracles et peut-être aussi être guéris. Mais le verset 2 nous surprend un petit peu parce que regardez ce qu'il dit à la fin du verset 2, il leur annonçait la parole. N'oublions jamais, mes amis, que le but premier de Jésus n'était pas de faire des miracles, mais d'enseigner la parole de Dieu, de dire aux hommes qu'ils pouvaient être réconciliés avec Dieu. Chapitre 1, verset 14, « Après que Jean eut livré Jésus, il alla en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. » Le verset 44 encore, où il dit, « Et lui, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre ta purification, ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Je ne cherchais pas ce verset-là, mais ce n'est pas grave, il est bien aussi. Bref, des versets qui montrent simplement que Jésus prêchait la parole de Dieu. Il annonçait la parole, il annonçait l'évangile, comme quoi l'homme est pécheur, mais qu'il peut être réconcilié à un Dieu saint. Donc, ce grand nombre de personnes s'assemblent à l'extérieur de la maison de Pierre et ils écoutent Jésus enseigner la parole. Et l'auteur veut bien, vu qu'on voit très bien ce problème, l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. C'était plein à craquer. Et alors, c'est à ce moment-là que quelque chose d'étonnant se passe. Deux, le problème du paralytique. Le problème du paralytique. Verset 3, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc, il y a un homme, on apprend, qui est totalement paralysé. Et cet homme est amené à Jésus. Alors, le détail est intéressant, verset 3. Des gens vinrent à lui, et ces gens amenèrent à Jésus un paralytique porté par 4 hommes. Donc, voici un petit peu comment moi je comprends la scène ici. Jésus est à l'intérieur de la maison, il est en train d'enseigner. C'est plein à craquer. Il n'y a plus de place à l'intérieur. Donc les gens continuent à arriver et la foule grandit à l'extérieur de la maison. Et ils tentent d'écouter et de voir. Tout d'un coup, quatre hommes arrivent en portant un paralytique sur un lit. Donc il y a un lit. Et ils portent cet homme. Donc peut-être des gens dehors disent « Super, un malade !» Voyons si Jésus va le guérir, c'est possible. probable même. On va l'amener à Jésus pour qu'il le guérisse. Et ainsi, on verra encore un miracle. C'est ce qu'ils voulaient voir, les gens. Ils aimaient bien les miracles de Jésus. Donc, ces gens disent aux quatre porteurs, allez devant Jésus avec le malade. Mais la foule est trop grande, impossible d'accéder. Et j'ai quand même l'impression que ceux qui avaient les meilleures places ne voulaient peut-être pas les céder. Alors parlons un petit peu de ce paralytique. Alors on ne sait pas grand-chose sur lui. On sait que son état était grave. Il est évident du fait qu'on a dû l'amener sur un lit. Donc il ne pouvait pas se déplacer lui-même. Il était couché sur un lit. Il était donc apparemment paraplégique du fait qu'il était couché sur le lit. Il ne pouvait même pas s'asseoir apparemment. Les chaises roulantes n'existaient pas à l'époque. Cet homme était donc condamné apparemment à être couché pour le reste de sa vie. Pour se déplacer, il était dépendant d'autres personnes pour le porter sur son lit. Alors on peut comprendre comment un homme paralytique était un homme condamné, presque pire qu'un lépreux. Il ne pouvait pas bouger, pas travailler, il ne pouvait même pas prendre soin de lui-même. En tant qu'invalide, il était rejeté par la société. À l'époque de Jésus, le rejet était particulièrement violent. La seule chose que pouvait faire un infirme était d'être mis à un endroit stratégique dans les villes pour que les passants puissent avoir pitié de lui et qu'on lui donne peut-être de l'aumône. Alors, il y avait un autre problème avec l'invalidité à cette époque, c'est que la notion juive était très répandue, comme quoi toute maladie, toute infirmité était une conséquence directe d'un péché spécifique commis par l'homme. Ça, c'était très répandu. Dans Jean 9, vous connaissez l'histoire de l'homme aveugle. 1 à 2, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Lorsque la tour de Siloé est tombée et a tué des personnes, dans Luc 13, pareil la question, ah, est-ce qu'ils ont péché plus que les autres sur laquelle la tour n'est pas tombée? Question logique. Dans Job, pendant 35 chapitres, les amis de Job veulent convaincre Job qu'il y a un péché dans sa vie qui fait qu'il a l'épreuve qu'il a. Alors, certes, il est juste de dire que toute maladie est la conséquence de la présence du péché dans le monde, ça c'est vrai. Après la chute dans Genèse 3, ça on l'a vu en détail, l'homme et la terre ont été maudits par Dieu. Dorénavant, les hommes deviennent malades, vieillissent et meurent, tout le monde. À un moment donné, on meurt. Cependant, les afflictions précises ne sont pas nécessairement, alors attention, elles peuvent l'être, mais ne sont pas nécessairement le résultat direct d'un péché spécifique. Pas toute infirmité n'est le châtiment de Dieu pour un péché spécifique, bien que cela soit possible. Dans 1 Corinthiens 11, il y a certaines personnes qui sont malades dans l'Église parce qu'ils ont pris de manière indigne le repas du Seigneur. D'autres sont malades, infirmes et d'autres même morts. Donc oui, Dieu peut juger pour des péchés spécifiques, mais toute maladie n'est pas le résultat d'un péché spécifique. Donc, ce paralytique, non seulement il était paralysé, mais se demandait s'il était paralysé à cause d'un péché spécifique, parce que ça, c'était très très répandu dans la culture. Ou peut-être ses parents. Et tout le monde le rappelait constamment. On lui rappelait constamment. Alors, ce qui est super, c'est que malgré tous ces problèmes qu'il avait, il avait des amis. Il avait au moins 4 amis vraiment, vraiment super. 3. La persistance des porteurs. La persistance des porteurs. Porteurs. Verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Matthieu 9, 2 nous dit, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Donc ce paralytique arrive couché sur son lit et il est porté par 4 amis. Alors son lit n'était rien de plus qu'une planche de bois avec 4 pieds. Avec un matelas rudimentaire fabriqué probablement de paille posée dessus. Alors pourquoi ces 4 amis apportaient-ils le paralytique à Jésus? Eh bien pour que lui aussi puisse être guéri miraculeusement, bien sûr. Bien sûr. Je voulais vous montrer un verset assez remarquable dans Luc 4. 40, voici ce qui s'était passé à Capernaüm. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. On imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait de leur permettre pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc là, on voit qu'à un moment donné, précis, Jésus guérit chacun des malades. Donc ces guérisons que Jésus effectuait se répandaient dans tout le pays. Et tout le monde se disait, si moi je peux m'approcher de Jésus, peut-être que moi aussi je serai guéri. Alors si vous étiez paralytique, ben vous feriez pareil. Et peut-être vous pariez à vos amis ou ses amis diraient, voilà, allons-y, allons voir Jésus, oh, peut-être on a une chance. On a une chance. Alors bien sûr, le problème, il y a un problème, c'est qu'il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, au verset 4. Il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. La foule était tellement énorme qu'il n'y avait plus de place ni dedans ni devant la maison. Donc l'accès à Jésus était quasi impossible. Vous pouvez imaginer, aux fenêtres, les gens étaient là pour voir. Impossible d'accéder à Jésus. Alors c'est là où les quatre amis, alors qui a eu l'idée, on n'en sait rien exactement, mais apparemment les quatre amis ont une idée géniale et ingénieuse. Puisque la porte est bloquée, on va passer par le toit. Pourquoi pas, je me dis. Pourquoi pas? Alors, c'est ce qu'ils font. Regarder verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors, essayons de comprendre. Les maisons en Palestine à l'époque de Jésus avait souvent deux étages puis un toit. Et la plupart de l'hospitalité se faisait sur le deuxième étage. De nouveau, si vous allez en Israël, vous verrez ça. Partout, il y a des maisons plates où les gens vivent sur le toit. Alors le toit qui était souvent plat, auquel on pouvait accéder par un escalier extérieur ou bien partir d'un toit voisinant qui touchait son toit. Et parfois, on dormait même sur ce toit quand il faisait très très chaud. Vous vous rappelez peut-être que c'était sur le toit d'une maison que Pierre monta pour prier où il eut une vision des animaux impurs dans Actes 10, verset 9. Donc c'était vraiment un centre de vie. Marc nous dit, comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ses amis ont décidé que ce paralytique devait voir Jésus coûte que coûte. Et une chose est certaine, aucune personne présente n'allait donner sa place pour cet homme misérablement paralysé. Les gens, probablement motivés par un miracle, voulaient une bonne place. Ils ne voulaient pas céder leur place pour amener cette personne, probablement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les meilleures places étaient déjà prises par quelqu'un. Au verset 6, on l'apprend. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis. Donc les meilleures places, bon, on dit, ils étaient là. Ce qu'ils ont vu et ils ont parlé avec Jésus, les scribes étaient là. Alors ces quatre hommes prennent le lit du paralytique, avec lui dessus, et ils montent les escaliers extérieurs. Alors déjà ça, il faut réfléchir, c'est pas évident, pour pas qu'ils tombent, qu'ils glissent, d'accord? Donc ceux devant, ils doivent se faire tout petits, et ceux derrière, ils doivent monter très haut pour qu'ils soient plats. Donc ils le montent à l'horizontale, ils estiment l'endroit au-dessus duquel ils pensent se trouve Jésus qui enseigne dans la place dessous. Donc ils disent, ah là, Jésus doit être juste là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à percer. Ils commencent à créer un trou dans le toit. Mais pas juste un petit trou, un trou assez grand pour laisser descendre un lit à l'horizontale. C'est quand même pas rien. Donc ces quatre hommes, on ne sait pas exactement comment, est-ce qu'ils avaient des outils, est-ce qu'ils avaient préparé des outils, est-ce que c'est que des branches, enfin, toutes sortes de choses. Mais ils commencent à démolir le toit sur lequel ils se trouvent. Et n'oubliez pas, c'est le toit de la maison de Pierre. C'est pas chez toi, c'est chez quelqu'un d'autre. Alors les toits étaient faits de poutres sur lesquelles d'autres poutres translatérales plus petites étaient posées. On y ajoutait ensuite des branches de toute taille, pour lesquelles on ajoutait ensuite une couverture de boue et d'argile mélangée de paille coupée, sur lequel enfin on mettait peut-être des tuiles. Une sorte de dalle. Donc ils ont en premier enlevé ces tuiles ou ces dalles, s'il y en avait, une à une. Puis avec des bouts de bois, certainement, ils ont commencé à creuser et gratter la boue sèche qui recouvrait le toit. Et au fur et à mesure que les poutres translatérales étaient découvertes, ils les enlevaient. Alors maintenant, vous êtes à l'intérieur de la scène. Vous écoutez Jésus. La pièce est pleine de gens serrés les uns contre les autres. Les gens écoutent attentivement l'enseignement de Jésus. Tout d'un coup, on entend un drôle de bruit. Ça gratte là-haut. Ça gratte. Un grattage étrange. Tous lancent des regards sans savoir ce que c'est. Certaines deviennent probablement irritées par le bruit. Oh, ça vous est déjà arrivé ça? Mais le bruit augmente et Jésus continue à enseigner. Et tout à coup, de la poussière commence à tomber du plafond. Les gens regardent vers le haut, perplexes, mais tout d'un coup, ils reçoivent de la poussière dans les yeux. Et ils sont encore plus frustrés. Puis des morceaux de terre sèche, plus gros, commencent à tomber du plafond. Les gens lèvent leurs mains pour se protéger de ces morceaux qui tombent. Mais la poussière et la terre continuent de tomber sur les cheveux, dans les yeux, sur les vêtements. Ils essayent de s'en débarrasser. Mais personne ne peut bouger parce que c'est plein à craquer et personne ne veut céder sa place. Soudainement, un trou apparaît. La lumière du jour éclaire et éclate dans cette pièce. Maintenant, de gros morceaux de plâtre tombent sur l'auditoire. Peut-être même des branches ou des morceaux de poutre, qui sait. Mais beaucoup de poussière. Et là, c'est la confusion totale. Je me demande quelle était la réaction de Pierre et André, les propriétaires. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Le trou s'agrandit, tous regardent. Les quatre hommes qui creusent sont maintenant visibles à tous de par le trou. Et une fois le trou assez grand, ils disparaissent de vue pendant un instant et puis l'impensable arrive. Les quatre hommes prennent probablement des cordes de pêche, parce que c'était des pêcheurs, qu'ils trouvent sur le toit de cette maison habitée par des pêcheurs, attachent un bout de corde à chaque coin du lit du paralytique, le soulève, réapparaissent au-dessus du trou, sachant que le trou est maintenant juste assez grand pour que le lit passe, et ils laissent descendre à l'horizontale ce lit, lentement, lentement, jusqu'au pied de Jésus, et la foule est stupéfaite par ce qu'elle voit. Elle n'y croit pas. Et une fois que le paralytique... Alors bien sûr, là, tout d'un coup, ils ont trouvé de la place pour ce lit du paralytique. Les gens se serrent encore plus. Et le paralytique arrive en plein devant Jésus, apparemment. Et je parie, j'en sais rien, qu'ils ont pris les cordes, ils ont tout lancé à l'intérieur de la maison. Et les amis maintenant s'accroupillent autour de ce trou et regardent attentivement la suite de ce qui va se passer de ce trou. Et là, du coup, ces quatre gars ont les meilleures places de la maison. Les meilleures places. Certainement que d'autres sont montés au toit et il y avait tout un groupe de personnes qui regardaient par ce trou, sûr. Alors, on s'arrête un instant. Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez de ces quatre amis? Écoutez, je pense que tout homme et toute femme devraient aspirer à avoir quatre amis comme eux. Amen. Ah, dis donc. Ça, c'est des amis. Ça, c'est des amis. Ces hommes ont démoli un toit qu'ils allaient devoir rembourser aux propriétaires pour leurs amis. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait tous aller démolir des toits, d'accord? Mais je suis en train de dire qu'on est prêt à sacrifier pour un vrai ami. 4. La promesse du pardon. La promesse du pardon. Verset 5. Relire le verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors ce qui est intéressant, c'est que le paralytique ne dit rien. Était-ce possible que ses cordes vocales étaient aussi paralysées? On ne sait pas. Ou bien l'homme était-il tout simplement dans l'étonnement de se retrouver face à face devant l'homme qui avait le pouvoir de le guérir et ne savait pas quoi dire, peut-être? Mais là, soudainement, cet homme se trouve dans toute sa misère, dans la prison de son corps paralysé devant Jésus. Et il entend cette phrase à laquelle il ne s'attendait pas du tout. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il ne s'y attendait pas, car il n'était pas venu pour avoir ses péchés pardonnés, mais pour être guéri. Donc ça, ça le bluffe. Il ne s'y attend pas. Alors, qu'est-ce que Jésus déclare avec cette phrase ? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus déclare premièrement à cet homme que ses péchés sont pardonnés. Cela veut dire que Jésus lui dit qu'à partir de cet instant, ses péchés sont effacés et qu'il ne sera jamais jugé pour ses péchés. Jean 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit : Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Deuxièmement, ceci implique que le paralytique avait compris qui était Jésus et qu'il apparemment avait cru en lui. Je dis apparemment, pas parce que j'ai un doute, mais c'est parce que Éphésiens 2,8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ce paralytique a dû croire, a dû recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Alors c'est intéressant, le texte dit bien qu'en voyant la foi, regardez le verset 5, Jésus voyant leur foi. Alors, on a l'impression dans une première lecture qu'il parle que des quatre amis. Mais cela ne veut pas dire que le paralytique n'avait lui-même pas de foi. Peut-être qu'il parlait des cinq, pas juste des quatre. C'est très important ça. Il est improbable que le paralytique ait été porté jusqu'à Jésus contre sa volonté. La différence, c'est que la foi active des quatre amis était visible, pas celle du paralytique. Troisièmement, Jésus affirme par cette déclaration ici que le pardon des péchés est infiniment... Écoutez bien ce que je vais dire. Très important. Il y a ce paralytique qui est encore malade. Jésus affirme par cette déclaration que le pardon des péchés est infiniment plus important que la guérison physique. C'est très important ça. Jésus ne le guérit pas immédiatement. Il lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Il ne le guérit pas. Donc, il est en train de dire ce qui est bien plus important que ta guérison physique, c'est le fait que tu sois pardonné pour tes péchés. Ça, c'est le plus grand besoin des hommes, mes amis. Le plus grand besoin des hommes. C'est pour ça que Jésus, dans 1,14, alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. C'est quoi l'évangile de Dieu ? L'évangile de Dieu, c'est de dire, tu es pécheur, tu as besoin d'être pardonné, Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Ça, c'est l'évangile. Et tu dois te repentir et recevoir Jésus-Christ par la foi comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Voilà le plus grand besoin de l'homme. Et ces mouvements qu'on voit dans notre monde, ces mouvements d'église soi-disant chrétienne qui mettent toute l'emphase sur les guérisons, m'inquiètent. Ah oui, ça attire les foules, ça c'est vrai. Mais parfois, on est leurré et on nous dit, tu mérites ta guérison aujourd'hui. Ah bon ? Je mérite une guérison ? C'est intéressant. Une fois à Capernaüm, Jésus a guéri tout le monde. Une fois. Mais est-ce qu'il a guéri tout le monde en Israël quand il y était ? Non. Il était très ciblé dans ses guérisons. La plupart des gens qui étaient malades n'ont pas été guéris par Jésus. On ne peut pas dire que Jésus me doit une guérison. Absolument pas. Il peut nous guérir, mais il peut aussi vouloir que nous le glorifions dans notre infirmité. Paul, trois fois, a demandé qu'il soit guéri de son infirmité et Jésus a répondu, « Ma grâce te suffit. » Non, la clé, c'est l'évangile, mes amis. La clé, c'est l'évangile. Et Jésus, en disant cela à cet homme, lui est en train de lui dire, « Le pardon de tes péchés est bien plus important que ta guérison physique. » Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que Jésus prononce et déclare le pardon du péché du paralytique, le récit prend un tournant radical. Ce récit change soudainement de direction. Écoutez, Jésus dit à cet homme ceci: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Qui pardonne les péchés? C'est la question. Dans Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est Dieu qui parle. Qui pardonne les péchés? Dieu. Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, lorsque Jésus dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Le commentateur Klosterman essaye de minimiser le pardon de Jésus ici en soutenant que, comme les prêtres, Jésus ne prétend être qu'un médiateur du pardon de Dieu pour le paralytique. Donc Jésus serait en train de dire « Tes péchés sont pardonnés par Dieu ». De ce fait, dit-il, Jésus ne pardonne pas lui-même les péchés, mais agit pour Dieu. Le problème, c'est que cet argument ne rend pas justice à l'autorité radicale de Jésus au verset 5. Jésus lui parle et il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Jésus ne dit pas, comme Nathan l'a dit à David par rapport à son péché dans 2 Samuel 12, 13, « L'Éternel pardonne ton péché ». Il n'a pas dit ça. Non, Jésus prétend pouvoir pardonner les péchés lui-même, présumant ainsi clairement la place de Dieu. De plus, Jésus ici ne prétend pas ici pardonner les péchés commis contre lui dans le sens humain des choses. « Ah, tu m'as fait du mal, je te pardonne ». Qu'il serait de son pouvoir de pardonner. Non, ici, il prétend pouvoir pardonner les péchés commis contre un autre, donc contre Dieu. Et Dunn, un autre commentateur, conclut ceci: « Il est impossible d'adoucir la force christologique des versets 7 et 10. Jésus est capable et a l'autorité de pardonner les péchés, pas simplement de les prononcer pardonnés. » Jésus lui-même est en train de dire à cet homme « Tes péchés sont pardonnés ». Et ce que nous allons voir dans les versets suivants, c'est précisément ce qu'ont compris les scribes qui étaient présents. C'est pourquoi ils sont scandalisés. Regardez, point 5, la pensée des prêtres au verset 6. Donc Jésus au verset 5 dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Verset 6, il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Matthieu nous dit qu'il y avait là des scribes, les docteurs de la loi juive. Et Luc 5, 21 nous apprend qu'il y avait en plus les pharisiens qui étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Donc c'étaient les partis religieux politiques. Ils sont présents. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Tout simplement parce que le bruit avait couru dans tout le pays comme quoi il y avait un homme en Galilée qui faisait des miracles époustouflants et que beaucoup affirmaient que c'était le Messie. Les leaders juifs s'étaient déplacés pour vérifier. De plus, la renommée de Jésus avait pris un tel essor que les leaders juifs étaient inquiets car il attirait d'immenses foules. Et alors Jésus dit à cet homme qui est là devant lui, « Tes péchés sont pardonnés » et là, ils sont choqués. Il faut savoir, c'est très important, que ni les scribes, ni les pharisiens prétendaient pouvoir pardonner les péchés, sauf lors du jour de l'expiation dans Lévitique 16. Mais encore là, c'était un acte d'absolution divine. De ce fait, ils sont scandalisés lorsque Jésus prétend pouvoir pardonner les péchés de cet homme. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Disaient-ils dans leur cœur. Alors sur ce point, ils avaient 100% raison. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Le pardon des péchés est un privilège qui revient à Dieu seul, car en fait, tout péché commis même contre un homme est un péché contre Dieu. Je ne sais pas si vous avez été, si vous êtes dans les groupes de maison, on a vu le psaume 51, c'est toujours un verset qui intrigue. Quand David a péché en adultère et en meurtre avec Bathsheba et son mari, il écrit le psaume 51 de confession, au verset 5, il est dit ceci, « Car je connais mes transgressions, c'est David qui parle, et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul, dit-il à Dieu. » Vous dites, ouais, mais c'est pas vraiment vrai, il a quand même péché contre Bathsheba et aussi contre son mari. Oui, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que tout péché à la base est un péché contre Dieu. C'est Dieu que nous avons offensé. Les péchés contre les hommes, c'est quelque part son secondaire, si vous voulez. Très important. Le psaume 103, 1. David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, etc. C'est lui qui pardonne. Donc il faut comprendre que tout péché, même un péché commis contre un autre homme, est en premier un péché contre Dieu. Donc seul Dieu peut le pardonner. Donc si c'est Dieu seul qui peut pardonner le péché, et si Jésus prétend pouvoir pardonner le péché, alors il n'y a que deux options. Je ne sais pas si vous comprenez la logique ici. Si seul Dieu peut pardonner un péché, et Jésus dit qu'il peut pardonner le péché, il y a deux conclusions possibles. Un, ou bien Jésus qui se tient devant eux est bel et bien Dieu incarné, ou bien Jésus est un imposteur prétendant être Dieu sans l'être en réalité, et donc il serait un blasphémateur. Voici les deux options. Alors, la conclusion des scribes, elle est claire. Au verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Et Lévitique 24:16 nous dit que le blasphème est punissable de mort. Ces leaders ont dû consulter les Écritures, Ésaïe 53, et comprendre que les miracles que Jésus faisait étaient une confirmation du fait qu'il était bel et bien le Messie, c'était lui. Je trouve le détail intéressant. Jésus, en tant que Dieu incarné, est omniscient. Une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est omniscient, il sait tout. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? Que Jésus arrive lire leur cœur. C'est intéressant, ça vous trouvez pas ? Il y avait là quelques scribes, verset 6, qui étaient assis, qui se disaient « au-dedans d'eux ». Donc, ils réfléchissaient. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Dieu, Jésus lit. Jésus, verset 8, ayant aussitôt connu dans son esprit qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Tellement intéressant, vous ne trouvez pas ? Il connaît les cœurs humains. Et là, on apprend d'où vient notre péché, au fait ? Le cœur. C'est nos cœurs. Nos cœurs. Alors Jésus, maintenant, il vient d'être accusé dans leur cœur, de blasphémateur. Alors il procède avec un plan ingénieux pour montrer à ces hommes le vide total de leur argument et pour prouver qu'il est réellement Dieu incarné. 6. La perspicacité du plan. La perspicacité du plan. Verset 8. Je relis le verset 7. « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Waouh ! Jésus savait le raisonnement des scribes et des pharisiens. Il était le suivant. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus n'est pas Dieu selon eux, donc Jésus ne peut pas pardonner les péchés. Mais il vient d'offrir à cet homme le pardon des péchés. Donc Jésus blasphème, s'attribuant un pouvoir qui appartient qu'à Dieu. Alors, ils avaient raison de dire que seul Dieu peut pardonner les péchés, mais ils ont fait la tragique erreur de conclure que Jésus n'était pas Dieu. Alors Jésus veut leur prouver qu'il peut en fait pardonner les péchés. Comment il fait ? Verset 9. « Car lequel est le plus aidé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Alors, la question est très intéressante. Lorsque Jésus dit au paralytique « Tes péchés sont pardonnés », en fait, c'est facile à dire. C'est très facile à dire. Moi, je peux dire à n'importe qui « Tes péchés sont pardonnés ». Ils vont dire « Ah, super !» Mais peut-être qu'ils vont me dire « Mais prouve-le !» C'est dur de le prouver ça. Très dur. Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Parce que personne ne peut pénétrer le cœur de cet homme ou pénétrer la chambre du trône de la justice de Dieu et constater si oui ou non ses péchés sont vraiment pardonnés. C'est une chose humainement improuvable. Bien sûr, il y a le fruit du pardon, mais là, sur le point, comme ça, on ne peut pas regarder et voir. Pardon, pas pardon. Donc c'est très facile à dire. Jésus dit, qu'est-ce qui est le plus aisé à dire ? Ben, c'est beaucoup plus facile de dire, ben, tes péchés sont pardonnés parce que tu ne peux pas le prouver. C'est facile à dire. La question, elle est majestueuse. Il est bien plus facile de dire que tes péchés sont pardonnés parce que si je dis, lève-toi et marche, ben, les gens ils vont dire, bon, ben, fais. Ben, si je dis au gars, lève-toi et marche, bah, je peux regarder, je peux être un témoin visuel. Mais si je dis, tes péchés sont pardonnés, c'est compliqué, on ne peut pas prouver ça. Donc si Jésus guérit cet homme devant les scribes et les pharisiens, alors la logique est celle-ci. S'il arrive faire devant eux ce qui est le plus difficile à prouver, alors pourquoi penserait-il qu'il est impossible pour Jésus de pardonner les péchés ? Si Jésus peut faire devant eux ce qui est le plus difficile à prouver, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne pouvait pas faire l'autre chose. 7. La puissance de la preuve. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors Jésus fait ce qui est le plus difficile à faire. Il dit à cet homme, lève-toi. Et en un instant, cet homme fut complètement guéri. La force est revenue dans son corps, ses muscles atrophiés ont instantanément retrouvé leur force, les nerfs morts ont retrouvé leur sensibilité, ses jambes, ses pieds, ses doigts de pied, ses bras, ses mains, son corps entier retrouva une parfaite santé. Ce qui était mort a été recréé. Cet homme qui était couché depuis des années, incapable de bouger, dépendant d'autres personnes pour le déplacer, en un instant se met droit debout et se lève. Il est le seul qui est debout dans toute la pièce parce que tous les autres sont assis. Et Marc ajoute, et à l'instant il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Il n'y avait plus de place et tout d'un coup c'est comme la mer rouge. Et ce gars il prend son lit et il sort et il y a plein de place pour qu'il sorte. Et les gens, ils sont comme ça. N'oubliez pas, c'est un petit village. Il est connu, ce gars. Tout le monde sait qu'il est paralysé depuis des années. C'est Jacob. Jacob, qu'est-ce qui s'est passé ? Je marche. Wow ! Ah, mais ça a dû être un truc de fou. Instinctivement, il prend son lit parce que c'est le seul truc qu'il connaît dans sa vie. Son lit, il a toujours été sur son lit. première fois que c'est lui qui porte le lit et pas le lit qui le porte lui. Ô scribe, ô pharisien, ô peuple, ô toi qui écoutes, est-ce que tu comprends la conclusion de cette histoire? Est-ce que tu comprends pourquoi elle est là? N'est-ce pas clair ce que Jésus vient de faire? Ne comprends-tu pas que Jésus vient de prouver d'une manière irréfutable qu'il peut pardonner les péchés du monde? Jésus est bel et bien le sauveur du monde. Celui qui peut ôter, effacer les péchés du monde. Celui qui est venu chercher, sauver celui qui est perdu. Tous les hommes sont perdus, tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Tous ont besoin du pardon de leurs péchés. Le christianisme n'est pas une amélioration d'une personne, c'est le pardon total d'une personne qui ne peut rien faire pour se sauver elle-même. L'exemple du paralytique, c'est ça. Il était paralysé, il ne pouvait rien faire, rien. Et Jésus, paf, il le guérit. Voilà ce qu'il peut faire. On est paralysé dans notre péché, mes amis. Et Dieu, en un instant, peut nous pardonner, nous guérir. Alors, qu'en est-il du Fils de l'homme, ce titre? Un des multiples titres utilisés pour Jésus, il y en a beaucoup. Hein. Jésus est appelé le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Christ, Seigneur, Messie, Sauveur, Rédempteur, Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, la lumière du monde, le pain de la vie, l'avocat, Alpha et Omega, etc. Il y a plein de titres qui sont utilisés pour Jésus. Parfois, c'est lui qui les utilise de lui-même, parfois, ce sont d'autres qui lui donnent. Ce titre-là, Fils de l'homme, apparaît 14 fois dans Marc, uniquement de la bouche de Jésus, 3 fois pour décrire son retour, 2 fois pour décrire son autorité, comme ici, et 9 fois pour décrire sa souffrance. Ce terme semble décrire l'humanité de Jésus tout en décrivant son autorité divine en tant que Dieu fait homme, comme nous le voyons si bien dans ce récit. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Ah, dites-moi que c'est génial. 8. La perspective des personnes. Alors, comment est-ce que les gens ont réagi à tout ça? C'est assez marrant. Intéressant. Verset 12. De sorte que tous les gens qui ont vu cet homme sortir étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Enfin, premièrement, c'est la leçon, il y a plusieurs leçons. La première leçon, j'ai envie de la donner vis-à-vis des scribes et des pharisiens. Leur réaction est assez intéressante. Ils voient ça. Ils sont là. Réaction, chapitre 3, verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. C'est ce qu'ils disent, eux. Ce gars, il est mauvais, il faut le tuer. Il est horrible. Il guérit les gens. Et il pardonne les péchés. Dans Marc 3, 22, il conclut qu'il est de Belzébul. Il conclut qu'il est satanique. Cet homme guérit au nom de Satan. Conclusion. Moi, je te pose la question, est-ce que tu conclus ça? C'est possible. Si eux l'ont conclu, peut-être c'est quelque chose que toi tu conclus. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment la position de l'incrédulité. Ça, c'est la position où Jésus dérange. Moi je ne veux pas que Jésus vienne. Il arrive à lire les cœurs. Il peut me pardonner mes péchés. J'aime mes péchés. S'il te plaît, ne viens pas déranger ma vie. Beaucoup de gens sont comme ça. Deuxième leçon, c'est la leçon de la foule. Au verset 12, la foule était vraiment enthousiasmée, ce qu'ils avaient vu, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Alors, on ne connaît pas le cœur de tous ces gens. Ils sont émerveillés, étonnés, époustouflés par ce qu'ils avaient vu. Glorifient Dieu. De quoi étaient-ils étonnés? Est-ce qu'ils étaient étonnés du fait que Jésus avait pardonné les péchés de cet homme ou simplement qu'il l'avait guéri? Donc c'est encore une sorte d'acte de cirque. On ne sait pas. Mais dans Matthieu 9, 8, ils disent qu'ils étaient étonnés du fait qu'ils avaient donné de tels pouvoirs aux hommes. C'est intéressant que dans Matthieu 11, Jésus condamne Capernaüm pour l'incrédulité, il les condamne à l'enfer. Donc Capernaüm a vu tous ces miracles et pour la plupart ont rejeté le Messie. C'est comme intéressant. Hein? Donc si on vous dit que le miracle, ça prouve quelque chose, non. Est-ce que ça, comment, est-ce que je suis en train de dire, est-ce que le miracle, est-ce qu'il faut un miracle pour pouvoir croire en Jésus-Christ? Non. Non, parce que beaucoup de gens ont vu des miracles, mais ça n'a pas aidé au fait qu'ils viennent à Christ. Le critère, c'est que de comprendre que tu es pécheur et tu as besoin d'un sauveur. 3. La troisième réaction vient des 4 amis du paralytique. Ils voulaient tellement amener leur ami à Jésus. Leur foi ont permis qu'ils surmontent tellement d'obstacles. Ils ont amené leur ami à Jésus. Est-ce que tu as des amis? Peut-être que tu ne connais pas Christ, mais des amis veulent t'amener à Jésus. Ou peut-être, tu es un de ses amis. Toi, tu as des gens que tu veux amener à Jésus. C'est beau. Remercie ses amis. Et remercie les gens qui t'ont amené à Jésus. Remercie-les. Quatrième leçon nous vient du paralytique lui-même. Luc 5, 25, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Alléluia. Ce gars, il a reçu une double dose de grâce, il a été guéri physiquement et il a eu ses péchés pardonnés. Vous savez, c'est quoi la réaction de quelqu'un qui a ses péchés pardonnés et qui peut-être, Dieu a guéri, glorifier Dieu. Je te pose, toi chrétien qui connais Christ, est-ce que ton habitude, c'est de remercier Dieu et de le glorifier? Et la cinquième leçon nous vient de Jésus. Verset 10, « Sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Question, est-ce que tes péchés sont pardonnés? Sinon, demande-lui aujourd'hui. Il le fera. Demande-lui, tout simplement. Et s'ils sont pardonnés, je t'invite à glorifier Dieu ce matin. En prenant la Sainte Cène et en mangeant ce pain et en buvant cette coupe. Sainte Cène devant le Seigneur. Merci.